Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mardi 2 juillet 2016, mesdames, messieurs, bienvenue au Grand Dialogue. Au menu, aujourd'hui, nous vous parlons de la mise en place des autorités intérimaires. Les autorités intérimaires mises en place qui provoquent donc quelques remous avec ces manifestations ce matin à Gao qui a malheureusement fait des victimes, mais également avec cette réunion entre la plateforme et la CMA à Niamey. Pourquoi cette mise en place fait des mécontents? L'accord signé ne prévoit-il pas cette mise en place? Y a-t-il des préalables avant la mise en place des autorités intérimaires? Pour en parler, nous avons fait appel à Firoun Maïga, il est de la plateforme des groupes armés. Bonsoir M. Maïga.
Bonsoir.
Almou Ag Mohamed, il est de la CMA, il sera au téléphone avec nous. Et ensuite, Maître Abdourahmane Touré, il est juriste et analyste et il est attendu dans ce studio. Je suis Ousmane Diadjé Touré à la présentation, à la mise en onde, vous avez Petting Diarra.
Le Grand Dialogue.
La mise en place des autorités intérimaires poserait-il des problèmes? Une manifestation à cet effet à Gao a fait des morts ce matin. La gestion autour de Kidal est également au centre des débats entre la plateforme et la CMA qui sont actuellement en réunion sur la question à Niamey. Pourtant, l'Assemblée nationale a adopté le 31 mars dernier une loi portant modification du Code des collectivités territoriales. L'examen et l'adoption de ce projet de loi a été résultant d'une large concertation entre le gouvernement, les partis politiques, la CMA et la plateforme, les associations des collectivités territoriales et la société civile. Alors, Firoun Maïga, dites-moi, quelle est votre analyse aujourd'hui de la situation par rapport à la mise en place de ces autorités intérimaires? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, les autorités intérimaires, c'est un point qui fait partie intégrante de l'accord. Après la signature de l'accord, il est prévu effectivement dans le chronogramme une période intérimaire qui est de 18 à 24 mois. Pour permettre la relance effectivement des activités de développement, le retour des institutions au nord, puisque c'était ça qui a été convenu là-dedans. Et pour cela, il faut que des autorités se mettent en place, intérimaires, transitoires, comme on le dit par les mêmes, en reconnaissant effectivement que si on regarde sur l'échiquier politique, les maires en activité, ainsi de suite, ont dépassé de loin leur mandat. Plusieurs reports et des élections ont été proposés et pour lesquels on demande à ce que on attendait d'abord la signature de l'accord pour voir ce qu'il faut faire. Donc, ces autorités intérimaires, effectivement, ont fait l'objet, comme vous le contrefaites, de beaucoup de controverses. Et finalement, il y a eu un protocole d'entente entre le gouvernement et les partis. Alors, ce protocole d'entente crée les conditions, les orientations nécessaires pour la mise en place de ces autorités intérimaires. Un chronogramme, à ce sens-là, fait partie, effectivement, du protocole d'accord. Mais comme l'accord, comme au temps de la signature de l'accord, un chronogramme est indicatif. Voilà, dans sa mise en œuvre, va être subordonné à d'autres.
Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Où est-ce qu'on en est avec ce processus de mise en place, justement, de ces autorités intérimaires?
Ce qui se passe, c'est qu'il est là où les autorités intérimaires doivent être mises en place. Il faut se dire, il faut quand même qu'il y ait un cadre de sécurisation. Il faut les sécuriser. Qui va les sécuriser? À partir du moment où, dans l'accord, il est dit que le redéploiement de l'armée va être fonction d'un processus de cantonnement et d'une intégration pour une armée reconstituée, comme on le dit, donc ça prend effectivement.
Nous allons revenir justement au préalable qu'il y a avant la mise en œuvre de ces autorités intérimaires. En attendant, nous allons donner la parole à Almou Ag Mohamed de la CMA. Almou Ag Mohamed, vous nous entendez?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Almou. Alors, selon vous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain par rapport à la mise en place de ces autorités intérimaires qui pourtant a été votée à l'Assemblée?
Je pense qu'à ce sujet, on ne peut être plus clair que le grand frère Firoun que vous avez à vos côtés là-bas. Il faut quand même mettre en place un cadre sécurisé pour vraiment aller à la mise en place de ces autorités intérimaires. D'une part. D'autre part, il faut calmer les tensions qui existent autour de Kidal. Et on a vu aussi ce qui s'est passé aujourd'hui à Gao. Donc, il va falloir, d'une part, sensibiliser et d'autre part, aller au calme autour de Kidal pour vraiment à voir l'opérationnalisation du MOC effective et avant d'aller à la mise en place effective des autorités intérimaires.
D'accord. Firoune Maïka, dites-moi justement le MOC qui est le mécanisme opérationnel de coordination, qui est, à ce que j'ai compris, une force mixte composée des éléments de la plateforme, des éléments de la CMA, de l'armée malienne. Aujourd'hui, est-ce que c'est réalisable aujourd'hui qu'il y ait un MOC déjà, que cela existe?
Oui, le mécanisme opérationnel est mis en place. Le commandement opérationnel est à Gao. Alors, le mécanisme a un système de fonctionnement. Et ce système de fonctionnement permet d'avoir de la logistique, un certain nombre d'éléments lui permettant d'être opérationnel. Le mécanisme opérationnel est décentralisé au niveau des différentes des autres régions, la région de Kidal, la région de Tombouctou, ainsi de suite. Donc, à ce stade-là, la question ne se pose pas en ce qui concerne sa création qui existe. Mais le mécanisme opérationnel, le MOC, ne peut être fonctionnel qu'à partir des éléments. Et les éléments qui concernent le MOC, ce sont les éléments issus des mouvements. Donc un nombre a été identifié d'un bataillon par région, et sur ce bataillon, des éléments vont être retenus et qui feront partie des premiers éléments. La question qui a été posée, c'était d'abord la prise en charge de ces éléments. Entre les mouvements et le gouvernement, il y a eu un protocole d'entente et qui reconnaît effectivement que ces éléments vont bénéficier d'un DDR accéléré pour que, c'est une fois qu'ils sont pris en charge sur le budget national, qu'ils soient mis à la disposition du MOC, y compris ceux de l'armée régulière, pour essayer maintenant de sécuriser d'abord pour leur première mission les sites de cantonnement, mais en même temps, ils l'ont étendu encore sur la sécurisation des autorités intérimaires. Donc c'est eux qui ont pour mission de sécuriser les sites de cantonnement, mais en même temps, là où le besoin se fait sentir, c'est de sécuriser les autorités là où l'État n'est pas aussi présent. Donc tous ces mécanismes-là, mettre en place, réunir ces gens, produire les listes, prennent quand même un peu de retard. Et ce qui fait que, même si les autorités intérimaires, l'accord d'entente a été fait, et les subordonnés quand même à cet aspect sécuritaire, et comme l'a dit Almou, c'est un moyen important dans le dispositif qui permet effectivement de rassurer la continuité. Voilà un peu. Donc il y a un problème d'organisation. Il y a d'une part la responsabilité des mouvements à fournir les listes pour aller directement au MOC. De l'autre part, il y a la responsabilité du gouvernement et des autres partenaires à créer les conditions matérielles sur le terrain pour que, au niveau de chaque région, ces structures soient opérationnelles. Seul à Gao, il y a un camp. Mais à Tombouctou, il faut rechercher ce camp. Il faut créer les conditions, le matériel logistique et consorts avant de ramener les éléments là-dessus et qui vont bénéficier de ce profilage. Vous voyez, donc ça a été dit, on attend peut-être que d'un moment à l'autre, bon, dans les quelques jours que ça se fasse, mais de manière pratique, je vois qu'il y a une armada d'opportunités, de dispositions à prendre.
Merci Firoune. On revient donc du côté de Almou Ag Mohamed de la CMA. Almou, concernant le MOC, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les éléments, comme Firoune le disait, les hommes sont disponibles aujourd'hui déjà au niveau de la CMA? Est-ce que les hommes qui feront partie du MOC sont déjà opérationnels, sont prêts pour cela?
Au niveau des mouvements, que ce soit au niveau de la plateforme, je parle bien évidemment sur le contrôle du grand frère Firoune, ou au niveau de la CMA, les hommes sont prêts. On nous a demandé des 100 hommes pour Gao et nous avons déjà fourni cette liste. Et quand on va nous demander aussi de la même manière la liste pour les autres régions, on fera pareil. Mais Firoune l'a souligné tout à l'heure, on demande un processus de DDR pour ceux qui vont faire partie du MOC, mais moi je pense que cela va prendre beaucoup de temps. Il faudrait peut-être faire comme dans les années 90, prendre les hommes qu'on va fournir tout de suite, même si ils sont pas passés par un processus de DDR, et les mettre dans les patrouilles mixtes et faire marcher les choses très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une situation, plus on perd du temps, plus c'est tout l'accord qui est en danger. Si on se permet d'attendre que les éléments qui vont composé le MOC soit dédérisé, passe par tout un processus qui, on le sait, lui-même est très long. Ça sera du retard sur son opérationnalisation, ça sera du retard qui va être pris pour le cantonnement, parce que ce sont ces éléments qui vont sécuriser les sites de cantonnement. Ça sera un retard aussi qui va être pris dans la mise en place des autorités intérimaires, parce que, comme l'a dit Firoun, à certains endroits, ce sont les mêmes éléments qui vont composer le MOC qui seront amenés à sécuriser les autorités intérimaires. Donc, il va falloir trouver, à mon avis, une autre voie que celle d'aller vers les DDR de ces hommes pour qu'ils soient opérationnels dans les plus brefs délais, très rapidement.
Maître Abdrahmane Touré, bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Dites-moi, maître, on est, vous le savez bien, en train de parler de la mise en place des autorités intérimaires qui posent problème. Selon vous, on va un peu revenir en arrière, qu'est-ce qui retarde aujourd'hui ce processus en tant qu'analyste?
Merci beaucoup de m'associer à ces débats. Bonsoir à Almou et à Firoun. Moi, je pense que cette question d'autorité intérimaire, elle traînait derrière elle beaucoup de soubresauts. Il y avait des résistances politiques à Bamako, ici, un peu partout. Il y avait des résistances également au niveau de la société civile, principalement les sédentaires des régions du Nord. Donc, ces blocages devaient être levés au fur et à mesure. Donc, de document en document, on est arrivé jusqu'à l'entente qui a ce qu'il a comme contenu. Maintenant, la mise en place de ces autorités intérimaires sur le terrain va poser problème, manifestement, parce que le terrain, il est suffisamment difficile, parce que personne ne maîtrise quelque partie que ce soit de cette vaste région du nord du Mali. Donc, si on a décidé de choisir l'installation des autorités intérimaires avant l'installation de l'administration, avant l'installation également des forces armées de sécurité même recomposées, je pense que cela procède d'un choix politique, mais qu'il y a aussi des facteurs, notamment les difficultés relatives à leur sécurisation. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a passé un cap, en tout cas sur le plan documentaire en ce qui concerne la mise en place des autorités intérimaires. L'autre phase, maintenant, c'est la matérialisation. Ces autorités intérimaires en place, avec un calendrier aussi de redéploiement de l'État, maintenant, qui va les sécuriser? Donc, c'est ça la vaste question. Est-ce qu'il faut maintenant aller vers le système de MOC sans DDR ou bien procéder au DDR sans le MOC? Manifestement, aujourd'hui, les choix qu'on a faits en ce qui concerne les autorités intérimaires nous obligent à aller vers le choix simplement des MOC sans dédériser, comme a été dit tout de suite. Bon, cela également, c'est un choix politique. Je pense que les autorités de ce pays, avec les parties prenantes de l'accord, ont décidé d'aller vers ce choix. Et voilà, donc maintenant, on va voir comment cela peut être fait de manière pratique. Les aspects matériels en ce qui concerne l'occupation du terrain par les militaires, je les maîtrise moins bien que Firoun ou Almou. Mais tout ce que je sais simplement, c'est qu'il y a quand même une forme de sélection dans le choix de la mise en place, de la mise en œuvre des mesures. Et le choix qui a été fait nous oblige à aller pratiquement dans ce sens. Maintenant, comment faire pour l'assurer? Bon, je pense que c'est aux représentants des groupes armés de nous dire comment cela peut être fait matériellement, parce que c'est eux qui maîtrisent cette région du Nord, ce n'est pas l'État du Mali.
Alors, quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La mise en place des autorités intérimaires qui pose problème, c'est cela dont nous discutons aujourd'hui avec nos invités qui ne sont autres que Firoun Maïga de la plateforme, Almou Ag Mohamed de la CMA et Maître Abdrahmane Touré qui est analyste. Firoun Maïga, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de un peu ce qui s'est passé à Gao, avec parfois le soubresaut parmi les populations, est-ce qu'aujourd'hui la base, selon vous, est informée justement des décisions prises? Est-ce que la base suit, justement, que ce soit du côté de la plateforme ou de la CMA?
Oui, comme vous faites référence aux événements de Gao, je ne peux pas ne pas m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie aujourd'hui. C'est regrettable. Je pense que l'intention des acteurs aujourd'hui qui ont manifesté, c'était de le faire de manière pacifique.
c'était peut-être de porter leur voix. On est dans un pays de démocratie où la liberté d'expression et certaines libertés sont garanties effectivement par rapport à ça. Malheureusement, nous disons, c'est des populations de Gao, c'est des jeunes de Gao qui ont perdu leur vie simplement parce qu'ils ont voulu exprimer leur point de vue et dire. Donc c'est regrettable, on s'incline devant la mémoire et puis nous déplorons effectivement cette situation qui ne devrait pas arriver. Et c'est arrivé, c'est des faits de Dieu, nous sommes des musulmans et je pense que c'est ça. C'est ce que je peux en dire. Je pense que pour répondre à la question, après la signature de l'accord d'entente, il est prévu une campagne de sensibilisation de l'ensemble des parties, de la partie gouvernementale aussi bien que de la CEMA et de la plateforme sur le terrain, pour faire comprendre aux populations le bien fondé des autorités intérimaires, quelles sont leurs missions, quelles sont les différentes articulations qui permettent de rassurer les populations, parce qu'on a assez spéculé autour des autorités. On pense que c'est la CEMA qui vient se substituer à des organes politiques, ou bien on pense que bon, c'est le gouvernement du Mali qui n'existe plus et qu'aujourd'hui nous partons vers deux États totalement différents. Les autorités déclenchent effectivement la partition de fait du Mali en deux entités. Une première et une deuxième. Bon, je vois quoi. Donc, il y a de l'information qui passe, de la rumeur qui passe, qu'il faut équilibrer. Et je pense que ces missions de sensibilisation ont été prises en compte. Dans les jours à venir, des missions, en tout cas en ce qui concerne la CEMA et la plateforme, vont se rendre sur le terrain pour mieux faire comprendre les autorités intérimaires, les tenants et les aboutissants pour comprendre. Malheureusement, comme l'accord signé à Alger a connu effectivement ce dysfonctionnement en termes de communication, les autorités intérimaires aussi ont été victimes de la même chose. Voilà, les gens s'étaient plus informés que les décideurs eux-mêmes et voilà ce que sur le terrain, il y a une façon d'interpréter l'accord qui est totalement différent et les gens sont en train de se... il y a aussi, il faut voir le poids politique qui entoure l'ensemble de ces structures-là, de que ce soit l'accord, que ce soit ça. Vous savez, au Mali, aujourd'hui, les tendances sont un peu bien connues, que ce soit majorité ou opposition. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont mêlées là-dedans. Nous attendons peut-être que les acteurs eux-mêmes concernés aillent sur le terrain, mieux faire comprendre. Et je pense qu'à partir de là, on aura... Et je suis convaincu qu'il faut aller aussi un peu plus vite.
Merci Almou Ag Mohamed. Du côté de la CEMA, dites-moi, est-ce que aujourd'hui on peut dire que les populations sont sensibilisées? Est-ce que les partisans de la CEMA savent ce qui se passe aujourd'hui concrètement?
Bon, je vais joindre ma voix à celle du grand frère pour m'incliner très purement devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie aujourd'hui à Gao. Cela ne devrait pas arriver, c'est arrivé et il faut faire avec et puis essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Comment? En allant vers les populations, en leur expliquant vraiment les tenants et les aboutissants de l'accord, y compris les autorités intérimaires. Je pense que déjà il y a des missions, en tout cas de la CEMA, qui sont déjà sur le terrain du côté de Tombouctou. D'autres suivront du côté de Gao, de Menaka, Taoudeni et Kidal dans les jours à venir, et les camps des réfugiés aussi, pour justement expliquer le document qui a été signé entre la CEMA, la plateforme et le gouvernement. Mais je pense aussi que certains leaders politiques de nos régions doivent arrêter d'instrumentaliser les jeunes, comme ce fut le cas aujourd'hui à Gao. Parce que quand on parle d'autorité intérimaire, c'est pas la CEMA qui vient se substituer à l'autorité en place, c'est pas la plateforme qui vient se substituer à l'autorité en place, c'est quelque chose qui va être monté de façon consensuelle entre toutes les parties, y compris les populations locales, la société civile. À Gao, par exemple, s'il y a une autorité intérimaire qui devrait se mettre en place, ce n'est ni Firou, ni Almi, ni un autre cadre de la CEMA et de la plateforme qui vont venir prendre la place des élus qui sont là, c'est la société civile de Gao qui est généralement soit affilié à la CEMA, à la plateforme ou au gouvernement, qui va choisir en son sein les gens qui vont être là, qui vont remplacer l'autorité actuelle, ou alors la même autorité actuelle, elle reste si on veut, et puis elle s'appellera simplement autorité intérimaire avec les pouvoirs qui sont consacrés dans les documents qui ont été signés. Donc il va falloir aujourd'hui vraiment que les gens se parlent, qu'ils s'expliquent, que les populations comprennent, qu'ils expliquent aux populations ce qui se passe, ce qui va se passer, pour justement éviter les incompréhensions comme celle d'aujourd'hui à Gao.
Merci, ceci étant compris. Maître Touré, est-ce que vous pensez qu'il y a justement ce déficit de communication entre les mouvements et leurs bases, ou entre l'État et les populations, qui crée énormément de remous?
Moi, je pense qu'il y a... c'est un problème de communication et d'information, parce que tout cela dépend de l'angle sous lequel on place la question. La question des autorités intérimaires, moi je pense que c'est moins la question du bien fondé des autorités intérimaires que celle de la désignation des acteurs qui vont animer ces autorités intérimaires. Je m'explique. Nous savons que la loi modificative des codes des collectivités a tracé les missions, les limites, et tout ce qui s'ensuit en ce qui concerne les organes des collectivités territoriales, après un grand remous politique au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, cette loi, elle a eu le mérite de ne pas faire de différenciation entre les autorités du Nord et du Sud. Et vous savez, beaucoup de Maliens pense que ces accords-là sont des accords qui nous amènent vers une forme de partition de ce pays. Et lorsqu'on nous dit que les autorités intérimaires seront animées par des personnes en fonction de leur affiliation CMA ou plateforme, ça inquiète les populations et les gens se disent que c'est peut-être la première pierre de la matérialisation quand même de cette partition de ce pays-là. Les gens, à juste raison, le pensent. Et secondo, lorsqu'on avance un peu, cette peur initiale de la partition se transforme en inquiétude lorsqu'on lit le contenu du document portant entente, le document tripartite qui a été pris. Ce document va au-delà des simples autorités intérimaires. L'accord ne parle que des autorités intérimaires. Mais l'entente qui est passée, et personne n'en parle également, concerne aussi les pouvoirs publics, notamment les circonscriptions administratives. Le gouvernorat, les préfets et les sous-préfectures. Donc dans tout ce niveau, à tout ce niveau et là également, il y a une forme de partage des postes entre les représentants de l'État et les représentants des groupes armés. Le gouverneur dans son cabinet va avoir des représentants des groupes armés, le sous-préfet également pareil. Au niveau des organes des collectivités territoriales également, les acteurs qui seront désignés seront pris en fonction de leur affiliation. Donc les populations pensent que nous sommes pratiquement plus dans la régionalisation, mais nous sommes dans une forme quand même de partage de pouvoir plutôt que d'autorité à vocation intérimaire. Et cette peur-là, elle est légitime. C'est ce qui explique d'ailleurs aussi en partie le fait qu'une bonne partie de la population de la jeunesse de Gao soit sortie pour poser de manière assez ouverte des revendications compréhensibles. On peut en discuter parce que dans leurs activités, ils ont parlé de certaines choses, leur insertion au niveau de l'armée nationale, la question également de la légitimité du choix des autorités intérimaires en ce qui concerne certaines parties. C'est vrai que ce n'est pas tout le territoire, mais moi je pense qu'en réalité, ce sont ces aspects qui font peur à beaucoup de Maliens. On a l'impression que dans les textes, on parle de régionalisation, mais dans les faits, et peut-être aussi dans la tête de beaucoup de personnes des groupes armés, c'est le début du partage de ce pays, parce que s'il y a une constante dans cette histoire, c'est que les groupes armés, ils veulent aller vers un système, au minimum une autonomisation de ces régions du Nord. Et nous, de l'autre côté, en tout cas la majorité des Maliens, nous pensons que ça va être la première pierre pour porter atteinte à ce que nous considérons comme étant l'unité, le caractère unitaire de cet État Mali.
D'accord. Firoun Maïga, aujourd'hui, on arrive difficilement à définir un calendrier, mais on peut quand même parler de certaines étapes à suivre. Vous l'aviez déjà évoqué. Quelles sont aujourd'hui les étapes préalables avant la mise en place de ces autorités intérimaires? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, moi je dis que j'ai participé à une réunion extraordinaire de la CTS. À cette réunion étaient conviés les représentants du MOC. Et il s'agissait de définir effectivement un calendrier et de voir son opérationnalisation quoi, en termes d'effectivité. Un certain nombre de points ont été dégagés, c'est-à-dire d'abord faire en sorte que le MOC, dans un délai assez court, qui sera défini par le ministère de la Défense, la mise en place des instruments dans les différentes régions. En ce qui concerne Gao, c'est presque fini. En ce qui concerne Tombouctou, il faut avoir le local, ainsi de suite, et puis Kidal aussi. Deuxièmement, il fallait quand même finaliser les listes, comme l'a dit Almou, les listes ont été déposées en partie, et je pense que en ce moment, il faut arriver à ce système, parce que et la SEMA et la plateforme, à l'issue de cette réunion, ont opté pour le DDR accéléré. Je comprends bien ce que veut dire Almou, compte tenu du calendrier et de l'accélération qu'on demande, est-ce qu'on ne peut pas redéfinir une autre manière? Mais je sais que la partie gouvernementale, à l'issue de cette réunion, a posé un problème, puisque c'est la prise en charge sur le budget national qui posait le problème. Alors, il trouve qu'on ne peut pas faire émerger des individus sur le budget national alors que leur statut ne leur permettait pas. C'est ça la question qu'on avait. Donc, pour pallier à ça, le DDR accéléré a été un moyen de pallier les deux et d'accélérer cela. Son accélération ne pose pas problème parce qu'en fait, c'est un profilage qui prendrait peut-être une heure ou deux heures de temps par groupe et qui permettrait aux éléments d'être aussi opérationnels, d'être pris en compte. Mais puis aussi, il y a les questions de santé. Quel que soit le problème, si des éléments sont regroupés et qu'ils doivent manœuvrer ensemble, il faut quand même connaître leur statut physique, ainsi de suite. Donc, il y a des questions qui sont des fondamentaux. Bon, ça peut être. Mais toujours est-il que c'est la décision politique. S'il y a une volonté politique de la part des mouvements signataires, du gouvernement et de l'accompagnement de la communauté internationale, la question ne pourrait pas se poser en ce qui concerne la mise en œuvre directe du MOC. Et surtout que le mécanisme, le MOC même, est sous la responsabilité de la CTS. Donc, quelque part, elle échappe et au mouvement et au gouvernement. Si vous comprenez bien. Donc, il y a cette approche beaucoup plus neutre qui fait que ces éléments pourront conduire jusqu'à ce que, effectivement, le cantonnement se fasse, l'intégration se fasse et que les éléments concernés pour l'armée régulière, reformée, comme on le dit, mouvement, gouvernement, se redéploient de manière conforme au calendrier et tel que l'accord le dit. Voilà. Maintenant,
le calendrier jusqu'ici, oui, qu'est-ce qu'on a déjà comme calendrier?
Oui, le premier déjà, calendrier pour le MOC, à la réunion de la semaine dernière, il a été proposé au gouvernement un deadline à laquelle. Donc, moi, je pense qu'à la fin du mois de juillet, normalement, le gouvernement doit entreprendre toutes les démarches nécessaires pour pouvoir répondre à un certain nombre de questionnements. C'est-à-dire que les sites...
Donc, on peut dire que le MOC sera opérationnel déjà en fin juillet.
Je crois qu'en fin juillet, en tout cas, tous les éléments, je ne peux pas dire que ça peut finir parce que dans cette histoire, il faut éviter de donner encore des calendriers depuis l'accord jusqu'à aujourd'hui et c'est le nœud par lequel on nous prend tous. Donc, aujourd'hui, je me dis que s'il y a une volonté politique d'engager de toutes les parti, il n'y a pas de raison que d'ici le 31 juillet, les questions le MOC soit opérationnel et qu'aujourd'hui on procède effectivement à l'identification des zones sur lesquelles on peut remettre les autorités intérimaires.
Almou Ag Mohamed de la CMA, parlons un peu du DDR à présent. On entend parfois que les plaintes vont du côté de la CMA en disant que la CMA ne contrôle pas ses hommes, ce qui ralentirait énormément le DDR. Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui?
Le DDR, pour nous, c'est déjà un processus qui est en cours. Les listes des combattants ont été pratiquement déposées au niveau de l'aménagement. Et aujourd'hui, on attend la viabilisation des sites pour aller au cantonnement et au DDR. Tant que ce préalable n'est pas OK, on ne peut acquiser ni la CMA, ni la plateforme de ne pas contrôler ces zones.
Ni le gouvernement, je suppose.
On n'acquise personne. On n'acquise personne, ni le gouvernement, parce que ce n'est pas lui qui est en charge de toutes les façons de la viabilisation de sites. Ceux qu'on peut acquiser de ces retards aujourd'hui, c'est ceux qui sont en charge de la viabilisation des sites. Et je pense que c'est l'aménagement il faut le dire clairement. Quand le site, une fois viabilisé, et que la CMA ou la plateforme refuse de cantonner, là, on peut dire que la CMA ou la plateforme ne contrôle pas ces hommes. Mais tant que ces préalables ne sont pas derrière nous, je pense qu'il faut éviter de juger telle ou telle partie.
Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani. On parle justement de la mise en place des autorités intérimaires ou des autorités transitoires selon Firoun Maïga. Et nous avons justement comme invité Firoun Maïga, il est de la plateforme des groupes armés. Almou Ag Mohamed, il est de la CMA. Maître Abdrahmane Touré, juriste et analyste. Merci messieurs de votre présence. Maître, à présent, dites-moi, n'a-t-on pas le devoir de trouver une solution rapide pour apaiser les populations qui ont tant souffert?
Oui, moi je pense que vous avez carrément raison sur la question. Et puis je reviens d'abord sur la question du DDR. Vous savez, le DDR c'est un moyen de parvenir à ce qu'on appelle la recomposition de l'armée qui va être déployée. Donc lorsqu'on regarde maintenant l'objectif qui est au bout de ce DDR-là, c'est une armée recomposée qui va être redéployée, qui est censée apporter la confiance, qui est censée être plus légitime aux yeux des populations. Mais les critères et les choix des DDR maintenant qui ont été mis en œuvre font de sorte que les populations sédentaires majoritaires du Nord à 90%, parce que c'est des populations qui n'ont pas pris les armes généralement. Même les petites parties qui ont pris les armes sont une infime minorité. Donc lorsqu'on recompose l'armée, et n'est-ce pas, à travers les critères relatif à la détention d'armes ou de munitions, on risquerait de se retrouver dans une forme d'armée redéployée qui va être majoritairement composée par les minoritaires. Donc la population majoritaire sédentaire ne se reconnaîtra pas dans cette armée-là. Donc c'est pour cela que les populations et les jeunes des Gao maintenant ont estimé que au lieu de rester simplement cantonné sur les aspects opérationnels, comment on le met en œuvre, il faut aller au fond de la question et se positionner. Sinon, on risquerait d'avoir à rebours ce qui est en train même d'être combattu au jour d'aujourd'hui et soutenu par les groupes armés. Parce que c'est ça le vrai nœud de la question. Si l'armée recomposée doit être majoritairement composée par les ressortissants du Nord et que ces ressortissants, pour être réintégrés dans cette armée, doivent avoir des armes, il va sans dire que la majorité des populations, Sonrail, Bozo, Peul, Arma et tout le reste, vont se retrouver minoritaires dans cette armée. Et les gens se disent que, dorénavant, il faudrait également que nous soyons représentés dans cette armée. Et si nous voulons avoir une armée apaisée, une armée quand même qui peut faire son travail en toute légitimité dans les régions du Nord, il faut peut-être revoir ces critères de DDR pour que le recrutement de toutes les composantes des régions du Nord également soit une réalité. Sinon, on risquerait d'avoir une armée composée majoritairement des minoritaires. Et puis maintenant, sur la base de cela, la majorité de la population sédentaire s'opposera et on aura toujours les mêmes problèmes. Donc voilà ce que moi je disais en ce qui concerne cette histoire de DDR qu'il faudrait vraiment étudier de manière minutieuse. Si ça n'a pas été compris comme ça, je pense qu'il faut aller dans cette lecture des choses parce que c'est là la vraie et la bonne lecture de la situation. En ce qui concerne votre question pour les populations du Nord qui ont tant souffert, ça relève finalement de l'incantation. Vous savez, c'est très facile pour vous et moi d'être à Bamako ici et de nous apitoyer sur le sort de ces populations. Nous avons des parents là-bas, nous avons des personnes dont les activités sont arrêtées depuis des années. Elles n'ont rien fait. Ça a été arrêté par la faute d'autres personnes qui ont pris des armes prétendument à leur nom. Donc si on doit penser à des personnes à réinsérer, si on doit penser à des personnes à resocialiser, à aider, ce sont ces personnes-là qui travaillaient, qui ont leur motopompe qui ne marche plus parce que le carburant ne peut plus parvenir compte tenu de l'insécurité sur leur route, qui ont leur champ qui ne marche plus parce qu'ils ne peuvent plus cultiver, plutôt que de penser à ces personnes-là qui ont pris les armes contre leur État et qui sèment la terreur et qui empêchent d'autres jeunes de travailler. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on inverse la logique des choses et qu'on s'interroge réellement sur la représentativité même des groupes armés. Parce que tout ce qui se passe à Gao aujourd'hui, s'il y a un fond de toile, cette question de la représentativité de ces groupes armés. Est-ce que ces groupes armés ont une légitimité à la base pour qu'elles soient
au même niveau que l'État? Est-ce qu'elles ont une légitimité à la base pour qu'elles soient à même de désigner des représentants dans les autorités intérimaires en fonction de leur affiliation?
L'État du Mali leur a quand même proféré cette légitimité. L'État du Mali s'est assis avec ces gens. Donc, à ce moment-là, ça c'est une légitimité qu'on reconnaît.
Non, je ne parle pas de cette légitimité, je parle de la légitimité populaire. Est-ce qu'on a des unités de mesure pour savoir si, effectivement, la coordination des mouvements de l'Azawad est un mouvement qui est ressenti comme étant représentatif de l'aspiration des populations de Tombouctou, de Gao, de Kidal et de Menaka? La plateforme également. Moi, je pense que les personnes se sont arrogées cette légitimité au forceps à travers les armes et nous sommes en train de les considérer comme telles parce qu'elles sont fortes. En réalité, ce qu'il faudrait faire et qu'il faudrait maintenant voir de près, c'est vraiment cette histoire de conférence d'entente nationale et cette histoire d'Azawad que les nordistes sédentaires...
Vous pensez que la conférence d'entente nationale est un préalable majeur?
C'est le préalable à tout, c'est un... Si vous prenez l'accord, vous le regardez, le chapitre 1, le fondement pour un règlement durable du conflit. On dit pour le règlement durable du conflit, il faudrait prendre en charge cette appellation Azawad. Ce n'est pas un simple mot. Certains s'amusent à dire que c'est une appellation qui a la même connotation que le Djitimou et le Ouassoulou. Ce n'est pas la même chose. C'est une notion de conquête territoriale. Ce n'est même pas une reconquête. Une reconquête, ça suppose qu'il y avait déjà une antériorité historique, qu'il y avait déjà des choses qui existaient. Mais là, c'est un slogan de guerre, c'est un slogan de conquête de territoire que charrie cette notion d'Azawad. Et les populations du nord du Mali qui sont majoritaires ne se reconnaissent pas dans cet Azawad-là. Cela est vérifiable de manière claire et simple, mais on ne veut pas aller vers ça. Parce que lorsque vous regardez l'accord issu du processus d'Alger, toutes les fois où il y a possibilité d'aller vers la voie de la majorité, vers la voie de la démocratie, on l'a biffé. Tout ce qu'il y a dedans, simplement, c'est la représentativité équitable, c'est la représentativité entre les groupes armés. Les populations ne sont concernées jusqu'à présent par aucune mesure parce qu'elles n'ont pas été interrogées, elles n'ont pas été associées jusqu'à présent. La seule manière d'associer les populations du Nord et du Mali généralement, c'est de s'asseoir à travers ce forum national. On a essayé des forums intercommunautaires à Kidal, financés par le gouvernement. Pourquoi on ne va pas faire un forum à dimension nationale pour prendre en charge cette problématique de l'Azawad? Une problématique maintenant qui fait que nous, les populations sédentaires du Nord, nous sommes rasés, comme on le dit en Bambara, quand Ankoutré dit en Kofé. Donc nous ne sommes pas de cet Azawad, nous ne nous reconnaissons pas dans cet Azawad-là. Il faut qu'on en parle. Ceux qui pensent que les Nordistes sont des Azawadiens se trompent. C'est un slogan, c'est une fiction qui n'a aucune réalité. Et chaque fois qu'on essaiera de mettre en œuvre cette fiction, ça va amener des complexifications. Et les populations du Nord, principalement les jeunes de Gao que je salue ici, je les encourage à sortir encore et à ne pas accepter l'inacceptable parce que nous avons un gouvernement qui n'est pas capable de les protéger. Et à juste titre, ces populations doivent sortir. Et comme Bachilé l'a dit lui-même, les populations maliennes ont le droit de sortir et de se défendre chaque fois qu'il y va de leur intérêt.
On va jouer aussi la carte de l'apaisement en demandant quand même aux populations de rester calmes en attendant que les enquêtes aboutissent. On a le communiqué du gouvernement qui s'engage à diligenter une enquête indépendante et impartiale pour faire toute la lumière sur ces regrettables événements. Firoun Maïga, vous avez entendu Maître Abdrahmane Touré. Qu'est-ce que, moi j'ai compris dans ses propos que la plateforme et la CMA n'étaient pas représentatives aujourd'hui et que c'est grâce aux armes justement que vous allez trouver, mais il a proposé aussi qu'il y ait cette conférence d'entente nationale d'abord, hein, qui va déblayer avant toute chose. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je comprends. C'est le spécialiste, c'est le juriste. C'est, je comprends bien. Et j'ai écouté ce qu'il a dit. Je comprends son argumentaire. Je voulais revenir sur le premier en ce qui concerne le DDR. Le DDR, dans les normes internationales, répond quand même des standards. Les standards internationaux qui prévoient le processus de DDR sont des standards clairs. Le processus qui amène dans un conflit, dans un État, à un processus de DDR est clair. Le cheminement est clair, les critères sont clairs.
Par rapport au cas du Mali, justement,
oui,
avec
tous les pays,
des solutions proposées posent plus de problèmes, est-ce qu'on ne peut pas avoir à la malienne quelque chose de consensuel qui s'adapterait mieux à nos réalités?
Il n'y a jamais un DDR à la malienne qui va faire que la communauté internationale reconnaît que
parce que des individus, des hommes ou des femmes, quelque part, ont détenu des armes, ils ne sont pas affiliés à des mouvements qui ont le droit de venir déposer les armes pour faire, s'ils ont ces armes-là, de venir au processus parce que c'est ouvert. Il n'a jamais été dit que seulement les mouvements, tout groupe armé ou bien toute personne ayant une arme, si réellement le contenu et les critères sont connus, il n'est pas ouvert, intègre une partie pour venir déposer son arme et bénéficier du même processus. Oui, ça c'est faisable. Le DDR, c'est en fonction des États. Le DDR malien n'est pas différent du DDR sénégal, de la Côte d'Ivoire, du DDR qui s'est passé au Congo. Les critères, les choses ne sont pas les mêmes. Mais il n'est pas dit aujourd'hui que le DDR, en contenu de certains critères ou des blocages qui font qu'une partie de la communauté peut prévoir des droits et qu'à ce titre il faut vraiment que ça s'adapte, je pense que c'est trop, je ne pense pas que le système, parce que de toutes les façons c'est la communauté internationale qui pilote cette question, le DDR est national, les instruments qui amènent le DDR à être opérationnel sont suivis, sont connus, et vous savez les fonds même qui sont mis à la disposition de ce programme là viennent effectivement de la communauté internationale, Almo vient de le dire, ceux qui sont chargés de l'identification des sites, de leur construction, de leur viabilisation, ces fonds viennent de certaines structures qui tiennent de certains comptes des normes. Donc, je voulais juste dire que oui, je comprends bien, il y a une façon de faire, mais l'État malien reste souverain dans des dispositions qu'il peut prendre, en dehors même de ce contexte de DDR-là. Ça, c'est une volonté politique qui émane de l'État. C'est à eux de voir que cette situation pouvait être réglée d'une autre manière. Je savais qu'après la reconquête, que les gens aient déposé leurs armes, si l'État avait pris des démarches auprès de ces jeunes auxquels ils ont retiré l'arme, des compromis, est-ce que c'est passé, est-ce que ce n'est pas passé, il y a des non-dits, mais je pense que cette question ne serait pas posée et la question du cantonnement ne serait pas l'élément moteur qui a amené ça.
Voilà.
Je pense que pour les autorités intérimaires, ça a été quelque chose qui est venu comme un plus. Bon, moi je comprends bien ce qu'il dit, la légitimité par rapport à ça. Vous savez, quand l'occupation s'est faite et quand les gens sont revenus à Sévaré et quand les mouvements se sont reconstitués, quelque part, tout le monde était d'accord avec qui il veut. Moi je suis de la plateforme, j'appartiens à un mouvement, je sais le soutien que moi j'ai au niveau de ma base, au niveau de mes populations, je le sais. Je suis convaincu que moi, Firoun, de la plateforme et de la CMFPR, je ne suis pas venu seulement par les armes. Il y a des gens qui me soutiennent, avec lesquels nous avons été, qui ont fourni, qui ont donné. Donc je ne pense pas que ce soit bien sain de dire que les mouvements qu'on a acceptés comme mouvements belligérants d'une partie et des mouvements pro-gouvernementaux s'asseoir et discuter d'un protocole d'accord, qu'on pense que cette légitimité, puisqu'ils l'ont, ne peut pas refléter celle de la population. Chaque groupe a sa population derrière. Voilà, chaque groupe a sa population derrière. Et je pense que la question des autorités intérimaires, au-delà du fait qu'on arrive à créer cette nuance en disant, bon, c'est la plateforme qui amène ces gens, c'est la CEMA qui amène ces gens, je vous prends juste un exemple. Prenons la commune de Gao, la commune urbaine de Gao, de ville.
Rapidement.
La commune urbaine de Gaoville. Alors, vous allez dire que quelle est la plateforme, quelle est la CEMA qui vont être. Mais ils sont en place.
Magnifique. Alors, Almou Ag Mohamed, dites-moi, comment est-ce qu'on peut sortir de ce guépier aujourd'hui, puisque ce qui s'avère être la solution, à savoir les autorités intérimaires, semble poser plus de problèmes. Quelle est la solution intrinsèquement pour rapidement aller vers la paix?
Je pense que d'abord, pour sortir
très rapidement, on a très peu de temps.
Vers la paix, il faut commencer par éviter les discours comme celui de mon frère Touré tout à l'heure. Comme l'a dit Firoun, la CEMA, la plateforme, tous les mouvements qui composent ces deux entités, chacun a sa population, chacun a sa légitimité. Et quand je vous dis que moi je m'appelle Almou, vous devez m'appeler Almou si vous voulez discuter avec moi. Si vous m'appelez Ayouba, je ne répondrai pas. Aujourd'hui, la ZOAD, contrairement à ce que dit mon frère Touré, c'est une réalité, c'est pas une fiction. C'est une réalité qui a fait.
Alors
que,
par rapport à la solution, comment est-ce qu'on peut rapidement aller à l'application?
C'est une réalité qui a fait que le peuple Mali a perdu une grande partie de son territoire pendant un moment. elle l'a retrouvé à travers le Mali l'a retrouvé à travers cet accord.
Almou, je vous rappelle qu'il nous reste moins d'une minute d'émission, donc la solution.
Il faut aller à la mise en œuvre de l'accord, tout en respectant les positions de tout un chacun, tout en respectant les populations sur chacune des parties de ces territoires-là, avec leurs aspirations, avec leurs souhaits, avec l'appellation qu'elles souhaitent donner à leur territoire, etc.
Merci. Alors, ceci met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission ainsi que toutes les autres sur notre site www.studiotamani.org. Ils nous ont fait le plaisir d'être avec nous, Almou Ag Mohamed de la CMA, Firoun Maïga de la plateforme, Maître Abrahaman Touré, analyste et juriste. Ayouba So a réalisé cette émission. Gagny Kanté était à la régie vidéo. Peting Diara à la mise en onde. Je suis Ousmane Diadié Touré. Merci et à demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Demandé.
Chenne Beri. Sigi.